Bonjour à tous.
Bonjour.
Alors, quelle que soit la plateforme que vous allez choisir, le fournisseur cloud que vous allez choisir, bien sûr Azure ou une autre, vous aurez à faire de nombreux choix pour héberger vos solutions, pour héberger vos applications. Alors, en effet, même si le point commun de toutes les plateformes, c'est d'avoir un certain nombre de data centers, un certain nombre de serveurs, on va avoir différents niveaux d'abstraction à sa disposition pour héberger ces solutions. Le premier niveau, c'est un niveau d'infrastructure qui vous a été présenté tout à l'heure par Hervé et par Stan. On va retrouver des machines virtuelles, Windows, Linux, on va retrouver des éléments réseau, on va retrouver du stockage, etc. Chez nous, c'est Azure Virtual Machine, ça peut s'appeler aussi EC2, ailleurs, Google Compute Engine, etc., etc. Mais on a un deuxième niveau d'abstraction qui sont les services de plateforme. Ici, le principe, c'est de fournir au fournisseur de cloud son code, ses différents paramètres applicatifs, et c'est lui qui va s'occuper de faire tourner les différents services, les différents serveurs nécessaires pour votre application. Donc, chez nous, ça s'appelle Azure App Service. Chez d'autres, ça peut être Heroku, AWS, Elastic Beanstalk, etc. Troisième niveau d'abstraction, troisième choix possible, c'est d'utiliser des services applicatifs. Si vous avez besoin d'une base de données relationnelle, ce n'est pas la peine de gérer soi-même un cluster, vous avez des services qui savent le faire. Si vous avez besoin d'un cache distribué, vous retrouverez des services, par exemple, comme Azure Redis Cache, qui sait très bien le faire, etc., etc. Donc, votre application, elle va se situer au-dessus de services d'infrastructure et ou de services de plateforme, et elle va éventuellement utiliser des services applicatifs. Je vous vois prendre des photos, c'est parfait, c'est la slide la plus importante aujourd'hui. Alors, pour vous montrer tout ça, on va prendre l'exemple d'une application assez simple, qui est une application ASP.NET Core, la prochaine version d'ASP.NET. Donc, le framework utilisé est un framework MVC, tout à fait classique, et on a une base de données relationnelle, SQL Server. Est-ce que, Julien, tu peux nous la montrer ?
Avec plaisir. Donc, c'est plutôt simple. Une application, donc, tu l'as dit, ASP.NET MVC Core, qui est capable de tourner sous Windows et sous Linux. Application très simple. On peut parcourir une liste d'albums de CD audio qu'on va pouvoir visualiser, ajouter à son panier et ensuite passer au paiement pour commander.
Ok, donc premier choix, lorsqu'on utilise, qu'on a besoin d'héberger ce type d'application, ça va être d'utiliser une machine virtuelle. Alors, c'est quelque chose qu'on fait depuis longtemps. Une machine virtuelle ou une machine physique, finalement, c'est à peu près la même chose. Ce qui va changer, c'est que vous avez besoin de gérer l'ensemble des couches au-dessus du système d'exploitation, simplement, lorsque vous utilisez une machine virtuelle. Vous avez besoin vous-même d'installer IIS dans notre cas. Vous avez besoin d'installer SQL Server. Ici, on a pris SQL Server Express. Et vous gérez l'ensemble des mises à jour, l'ensemble des backups, etc., etc. Donc ça, on a pu le faire sur Azure, c'est Azure Virtual Machine.
Exactement. Donc là, tu as créé une machine virtuelle, tu as tout déployé à l'intérieur, un 2IS, un SQL Server. Et une des particularités d'ASP.NET Core, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir le framework .NET full d'installer sur la machine, puisque c'est l'application elle-même qui va charger sa CLR. Et donc là, comme j'ai le contrôle total sur ma machine, je suis connecté en bureau à distance dessus, je peux accéder au IIS Manager, et aller travailler sur les propriétés de mon application pool pour dire que je n'ai pas besoin d'exécuter de code managé puisque ce n'est pas nécessaire ici. Donc, je suis vraiment en contrôle total de ce que je veux faire sur cette VM.
Ok, très bien. Le seul problème sur ce type d'infrastructure, c'est que premièrement, on a le front de son application et la base de données sur la même machine. Ce n'est pas forcément pertinent puisqu'on n'a pas forcément besoin du même type de machine pour ces deux workloads qui sont relativement différents. Et deuxième problème, c'est qu'on n'est pas hautement disponible. S'il y a un problème sur cette machine virtuelle, que ce soit du fait d'Azure par exemple, parce qu'on met à jour une machine host, ou alors de votre fait parce que vous êtes en train de mettre à jour un composant sur votre plateforme, votre application ne sera plus disponible pour les utilisateurs. L'avantage, Hervé a commencé à vous le montrer tout à l'heure, c'est qu'on va pouvoir utiliser des infrastructures beaucoup plus complexes en mettant en place des réseaux virtuels, en utilisant des load balancers, en gérant des network security groups, des groupes de sécurité, etc., etc. Donc on va pouvoir utiliser par exemple plusieurs machines pour le front, sur Windows, sur Linux, grâce à ASP.NET Core. On va pouvoir utiliser un cluster always-on, par exemple, pour du SQL Server. Demain, pourquoi pas, du SQL Server sur des machines Linux. Vous l'avez peut-être entendu, on l'a annoncé il y a quelques jours. Donc ça, une grosse révolution également chez nous. Bref, on va pouvoir faire des choses relativement complexes sur l'infrastructure Azure. Par contre, tout ça, ça devient complexe, ce n'est pas forcément votre métier. Vous allez pouvoir plutôt, si vous le souhaitez, utiliser des briques de plateforme, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que c'est ça qui apporte plus de valeur à votre société, par exemple, que de gérer vous-même des serveurs. Alors, pour ces outils de plateforme, Azure App Service va pouvoir héberger du code, Node.js, PHP, qu'est-ce qu'on a d'autre, Python, Java, etc. Et bien sûr, ASP.NET. Et on va pouvoir utiliser Azure SQL Database pour héberger la base de données relationnelle. Donc là-dessus, ce qui est important, c'est que vous ne gérez plus l'infrastructure et vous bénéficiez de choses totalement gérées par Azure, dont des fonctionnalités relativement avancées. Et je crois que Julien, tu as un bon exemple.
Oui, effectivement, l'un des avantages d'utiliser des services applicatifs dans son application, c'est d'avoir à se décharger d'un certain nombre de tâches qu'on n'a pas forcément soit envie de faire ou pour lesquelles on n'a pas forcément les compétences. Et un des exemples, moi, que j'aime bien quand on utilise SQL Azure Database, c'est la partie géoréplication. Aujourd'hui, si on a une application qu'on veut déployer dans plusieurs data centers, un en Europe et un aux États-Unis par exemple, parce qu'on a un marché qui est worldwide, on va être obligé de configurer de la géoréplication pour que, à chaque fois que j'insère des données en Europe, elles soient répliquées aux États-Unis. Avec SQL Azure, je vais pouvoir le faire en quelques clics. Ce qu'on peut voir ici dans le portail, je suis sur ma base de données SQL Database, j'ai un master qui est dans un data center à Dublin, un réplica qui est à l'est des États-Unis, et l'opération de rajouter un nouveau réplica, par exemple, pour aller déployer en Amérique du Sud, c'est aussi simple que de cliquer sur le data center dans lequel je veux aller, donner quelques paramètres de configuration pour dire quel est le type de base de données que je veux avoir, et cliquer sur OK. Et ensuite, c'est Azure qui va être en charge de déployer ma base de données, de déployer l'infrastructure qui va bien, et de mettre en charge, pour moi, la réplication. Donc ça, c'est vraiment un exemple parmi d'autres, mais c'est ce genre de choses qu'on veut amener à nos utilisateurs, à nos clients, pour leur faciliter la vie au quotidien en utilisant les services applicatifs de la plateforme Azure.
Super, donc maintenant, on utilise Azure App Service pour son code, Azure SQL Database pour la base de données relationnelle. On va essayer d'aller encore plus loin, cette fois en se concentrant sur l'architecture de l'application et en essayant de découper son application en plusieurs services. Alors, vous avez dû entendre parler d'architecture microservice. On va utiliser ici quelques-unes des bases de ce type d'architecture en créant, par exemple, une API pour le catalogue et une API pour la prise de commande. Ces API vont être utilisées par le front directement pour afficher à l'écran le catalogue, par exemple, ou pourquoi pas par des applications mobiles qui vont directement accéder aux API. Donc pour ça, tu vas peut-être nous montrer le code avant qu'on regarde comment on l'a hébergé ?
Oui, tout à fait. Donc effectivement, c'est un point important. Hein. Quand on va développer des applications directement pour le cloud, on va pouvoir adapter la manière dont on va développer ces applications pour aller vers des architectures microservices. Et donc là, ce qu'on a fait, c'est que plutôt que d'avoir une seule application ASP.NET à déployer, on l'a éclaté en trois applications différentes. On est resté sur un exemple relativement simple. On aurait pu pousser un petit peu plus loin. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir des applications qui soient autonomes, qu'on va pouvoir dispatcher dans différentes équipes pour avoir des équipes de développeurs qui se concentrent sur le front, des équipes de développeurs qui se concentrent sur le catalogue de produits ou sur la partie passage de commandes et paiements, et surtout qui évoluent à leur propre rythme. Et là, on va introduire une chose très importante qui est tout simplement de réduire le cycle vie d'une application en plusieurs petites applications pour gagner en agilité, pour gagner en flexibilité.
Ok, donc tout ça pour l'hébergement, ça va apporter pas mal d'avantages. Le premier, c'est qu'en choisissant d'héberger chacune de ces briques de manière indépendante, de manière séparée, on va pouvoir donc déployer, comme vous l'a montré Alain tout à l'heure, via GitHub par exemple, son application, ses différentes briques de son application de manière indépendante. Et on va pouvoir également scaler ces différentes ressources, donc passer à l'échelle ces différentes ressources de manière indépendante. Donc tout ça, ça ne va pas forcément coûter plus cher. Pourquoi ? Parce que si vous avez trois web apps au lieu d'une web app dans Azure App Service, vous allez payer le même prix, tout simplement parce que c'est l'app service que vous payez sur Azure. Donc si vous avez assez de ressources sur l'app service que vous utilisez, vous pouvez héberger autant d'applications que vous le souhaitez. Par contre, si vous voulez scaler, passer à l'échelle de manière manuelle ou de manière automatique, indépendamment, quelle que soit la brique de votre application, vous allez pouvoir utiliser des app services différents pour, par exemple, avoir plus de ressources pour l'API catalogue qui va être utilisée pas que pour l'application web, mais aussi pour les applications mobiles. Donc ça va nous permettre de gagner énormément en agilité.
Alors effectivement, et du coup, tu parlais du scaling des applications, c'est un autre excellent exemple de l'utilisation d'une fonctionnalité PaaS dans Azure, ici Azure App Service. J'ai mes différentes applications qui sont déployées dans des application plans différents, ce qui va me permettre de les faire scaler différemment. Par exemple, si je veux avoir plus de machines ou des plus grosses machines pour héberger la partie check-out et paiement parce que je juge qu'elle est critique pour l'entreprise, je vais pouvoir le faire et à l'inverse avoir peut-être un peu moins de machines ou un peu moins de puissance sur le catalogue de produits. Et donc j'ai deux fonctionnalités majeures au niveau Azure Web App pour faire du scaling, soit faire ce qu'on appelle du scale-up qui va me permettre d'augmenter la taille des machines qui hébergent mon application ou éventuellement de les réduire évidemment. Et je vais avoir également du scale-out qui va me permettre en fait de démultiplier le nombre de machines qui sont là pour héberger mon application. Ce scale-out, je vais pouvoir le faire de deux manières différentes. Soit manuellement, je veux une à n instances pour mon application. Soit je vais pouvoir le faire en demandant à Azure d'appliquer un certain nombre de règles. Et parmi ces règles, par exemple, je vais pouvoir choisir de dire en fonction de la longueur de la file HTTP, si jamais je dépasse une valeur, je vais déployer des machines tant que cette valeur est dépassée. Et à l'inverse, quand on va repasser en dessous de ce seuil, on va supprimer ces machines, ce qui va permettre en fait d'adapter le nombre de machines nécessaires à la charge et derrière les coûts, puisque l'idée aussi, c'est justement de pouvoir gérer tout ça comme un ensemble.
Oui, le but, c'est d'avoir le prix le plus juste en fonction de ce que vous utilisez. Donc là, c'est parfait. On a du scaling indépendant sur les différentes briques de l'application. On a du déploiement indépendant également. Mais je pense qu'on devrait être pas mal là, Julien.
Alors, je pense qu'on est pas mal. Tu parles d'indépendance. J'ai envie qu'on pousse la chose un petit peu plus loin et qu'on aille parler d'indépendance de la plateforme. On vous a parlé que pour héberger une application, on avait différentes options, utiliser des services applicatifs, utiliser des services de plateforme, utiliser des services d'infrastructure. Ce dont on n'a pas parlé encore et dont on parle beaucoup en ce moment, c'est les conteneurs. Et en fait, ce qu'on a vu ces derniers temps, c'est apparaître un certain nombre de services dans tous les fournisseurs de cloud public, que ce soit Azure Container Service ou par exemple Google Container Engine, qui vont nous permettre d'héberger des applications sous la forme de conteneurs. Et pour parler de ça, j'ai le plaisir d'accueillir David de chez Docker.
Bonjour.
Bonjour David. La mission telle que vous la définissez chez Docker, c'est Build, Ship and Run Any App Anywhere. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que ça veut dire ?
Oui, donc l'idée, hein, c'est de pouvoir construire des applications, de pouvoir les distribuer, de pouvoir les faire tourner en production hein, avec un jeu d'outils commun, c'est la plateforme Docker, qui est une plateforme ouverte. Et ce jeu d'outils va permettre de faire parler les développeurs avec la production au travers de ce qu'on appelle les conteneurs. On va être capable de décrire des conteneurs, on va être capable de créer des conteneurs, on va être capable de les faire tourner sur un cluster. Quelle que soit la cible, hein, si c'est votre machine locale de développement, un petit cluster chez vous sur des machines bare metal ou un cluster sur le cloud, quel que soit le cloud provider.
Et donc du coup, c'est ce qu'on vous propose de faire dans les prochaines minutes, c'est qu'on va reprendre l'architecture dont on parlait avant avec Benjamin, où on était sur Azure App Service, et on va la passer sous forme de conteneurs. Donc on va avoir un conteneur ou plusieurs conteneurs pour héberger notre front, pour héberger notre catalogue et pour héberger notre service de checkout. Et derrière, on reste connecté à une base de données Azure SQL Database. Et donc on va passer à la première étape qui est le build. Pour ça, on a utilisé Visual Studio Code et GitHub comme repository de code source.
Oui, effectivement, tu nous as montré, on a décomposé notre application en microservices. D'accord ? On a trois microservices, le catalogue, le checkout, le store. En fait, pour chacun de ces trois microservices, on va créer une image de conteneur Docker hein, qu'on va décrire à travers un fichier Dockerfile. En fait, ici, on a trois fichiers Dockerfile hein, qui sont assez similaires hein, et qui décrivent vraiment notre application. Un point important, chacune de nos applications hérite d'un conteneur de base qui est ASP.NET, l'accord CLR, et ensuite, par-dessus, on vient prendre nos sources, on vient récupérer les différentes dépendances, on vient construire, en quelque sorte, un binaire qu'on va pouvoir déployer sur notre machine ou sur le cloud.
Donc ça, c'est pour la première étape, donc le build. Ensuite, on va passer à la seconde étape, qui est le ship. Si on peut... Merci.
Le ship,
donc du coup, là l'idée c'est qu'on va vouloir automatiser la création du package dont parlait David. Pour ça, on va utiliser Visual Studio Team Service, qui est un outil qui va nous permettre de faire de l'intégration continue, couplé à un agent Linux qui va se charger de compiler les images pour les envoyer dans le repository public Docker.
Exactement. Donc l'idée, c'est qu'il y a plusieurs façons de partir des sources et de créer des images de conteneurs. Ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti de GitHub. À chaque fois que des sources sont poussées dans GitHub, on a Visual Studio, Team Services qui va réagir, qui va lancer un script shell Unix et qui va en fait récupérer les différents projets, construire les différents conteneurs et les publier sur le hub Docker. Donc le hub, c'est ici qu'on va voir un service pour chacun de nos micro, une image pour chacun de nos microservices. Et je peux vous montrer un petit peu le script. Il est tout simple, le script qui a construit les différentes images. C'est vraiment une combinaison des différents outils de Docker, un outil pour construire une image, un outil pour déployer cette image. Une fois qu'on a fait ça, à chaque commit, on a des nouvelles images qui sont déployées sur le hub Docker, prêtes à être utilisées.
Ok, donc si je résume un petit peu, on a fait l'étape du build, où on a créé notre application et on a écrit les Dockerfiles pour la packager. Ensuite, on a automatisé ça sur l'étape de ship avec Visual Studio Team Service, un agent Linux, puisqu'on crée ici des images qui vont être destinées à s'exécuter sous Linux. Et la dernière étape, c'est donc le run. On va maintenant exécuter notre application. Et donc, dans ce cas présent, on a choisi d'utiliser Azure Container Services, qui va nous permettre de déployer un cluster swarm dans Azure sur lequel on va pouvoir déployer nos différents conteneurs.
Effectivement, hein, Swarm, qu'est-ce que c'est ? Swarm, c'est l'outil de Docker qui permet de gérer un cluster de machines comme si c'était une machine unique. Vous allez toujours parler avec les outils Docker, hein, un cluster dans son intégralité comme si c'était une machine. Vous avez la même API, les mêmes CLI, les mêmes outils, mais là par contre vous avez beaucoup de machines et donc quand vous avez une application composée de microservices, chaque service peut être déployé sur des nœuds différents. Donc là, on va utiliser Azure Container Service qui nous permet de déployer du Swarm sur le cloud Azure. Donc on a utilisé un des Quick Start qui permet de déployer simplement Azure Container Service. Pour l'instant, c'est sur GitHub parce que c'est encore en accès bêta. Mais une fois que vous avez cliqué là-dessus, vous avez un cluster qui tourne sur Azure. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'ensuite, on va décrire notre application comme un assemblage de microservices. On en a trois, on va les assembler ensemble, on va les faire communiquer ensemble sur les différents ports, elles vont communiquer par HTTP, et elles vont communiquer comment ? En fait, on va créer une sorte de réseau virtuel qui relie tous les nœuds de notre cluster, et sur ce réseau, les différents nœuds vont pouvoir se parler tout simplement, vont pouvoir se trouver automatiquement, vont pouvoir communiquer automatiquement. C'est ce fichier Docker Compose qui décrit l'assemblage de nos trois briques, donc le store, le checkout et le catalogue. Chaque fois, c'est une image qui est récupérée depuis le hub, et c'est ces trois images mises bout à bout qui vont créer notre application. Et plus tard, on pourra scaler indépendamment chacun des bouts de cette application. Une fois que vous avez créé ce fichier-là, que vous avez pointé en fait, votre CLI Docker sur le Azure Container Service, vous pouvez tout simplement faire un Docker Compose Up, ça va lire le fichier, et ça va en fait indiquer au cluster, qu'il doit télécharger les différentes images et qu'il doit les faire démarrer sur le cluster et les faire communiquer. Pendant que je fais ça, je peux aller voir un petit peu ce qui se passe sur mon cluster avec Docker Info. C'est l'effet démo. Docker Info, en fait, va me lister les différents nœuds qui tournent sur mon cluster. Ici, j'en ai deux nœuds qui font tourner en tout 5 containers. Je peux aller un peu voir ces containers. Il se trouve qu'en fait, mon Docker Compose est en train de tourner, donc j'ai bien un conteneur front, un conteneur checkout, un conteneur catalogue. Et pendant que je parlais, en fait, l'application a quasiment entièrement démarré. Je récupère les logs agrégés de ces trois conteneurs et je peux aller en fait, me connecter sur mon application qui, à présent, est déployée. Donc le premier refresh est un petit peu lent parce que l'application se boot, mais sinon, elle est déjà déployée sur mon cluster. Donc si vous voulez en savoir plus, et voir comment déployer ce type d'application vraiment en décomposant chacune des étapes. Vous venez nous voir juste après. Et puis, si on arrive à aller assez loin, on essaiera de déployer un cluster swarm sur plusieurs cloud providers. Comme on a un outil qui permet de s'adresser à n'importe quel cloud provider, pourquoi pas en faire deux à la fois. Donc, on vous attend tous tout à l'heure.
Merci, David, pour toutes ces explications.